Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle émission, vous avez dit classique, consacrée aujourd'hui à l'Amérique. Alors, il se trouve que l'émission, donc, nous sommes le 4 juillet, c'est le jour de l'Independence Day. Donc, cette idée est venue naturellement, idée de l'émission, hasard du calendrier, émission diffusée le 4 juillet, je ne pouvais pas éviter de parler de cette fête de l'indépendance américaine, donc qui est, enfin, on aurait pu parler d'autres choses, évidemment, mais je trouvais ça intéressant. Il y a pas mal de musique qui a été composée à cette période-là et surtout qui a célébré cette chose. Parce que la musique américaine du XVIIIe siècle, elle n'est pas forcément très intéressante. Celle du XIXe ne l'est pas non plus. On connaît la musique américaine surtout pour le XXe siècle. Au XXe siècle, il y a eu énormément de compositeurs qui ont œuvré dans différents courants. Il y a eu vraiment des courants traditionnels qu'on pourrait appeler, je dirais, du nouvel américanisme, chose très oui, classique. Il y a eu de la musique expérimentale avec donc des gens comme Edgar Varèse, dont on parlera tout à l'heure, Elliot Carter. Des musiques plus proches de l'univers allemand ou autrichien, donc proche du sérialisme, des gens qui ont travaillé un peu à la manière ou dans la trace de Schoenberg. Et je pense à Babbitt, par exemple, Milton Babbitt. Et puis également, ce qu'on connaît aussi assez bien, c'est la musique minimaliste, minimaliste, donc avec le Terry Riley, avec Steve Reich, avec Adams. Voilà. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le premier compositeur qui ait écrit réellement des pièces autour de Independence Day et qui l'ait écrit de manière consciente, c'est Charles Ives, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Il se trouve que, à l'âge de 17 ans, Charles Ives a composé des variations sur America. America, il se trouve que c'est l'hymne américain, bien sûr, mais c'est que jusqu'en 1931, je crois, l'hymne américain n'était pas celui que nous connaissons. C'était encore l'hymne anglais, quelque part. Cette mélodie qui vient du passé, qui a voyagé à travers le temps, musique qui vient du XVIIIe siècle et dont on dit d'ailleurs qu'elle a peut-être été composée par Monsieur de Lully, compositeur italien ayant émigré en France. Donc, vous voyez, ça, on passe vraiment d'un pays à l'autre en permanence. Alors, on parlera de ça. Et je vais vous faire écouter donc cette pièce, les variations sur America, qui ont été données pour la première fois le 4 juillet, dont l'année, je ne me souviens plus. Il faudrait que je retrouve une note éventuelle, mais ça, je ne vais peut-être pas le faire. Créée donc le 4 juillet, et initialement écrite pour orgue. Je vais vous proposer trois versions successives, donc de la même œuvre, donc trois parties dans la même œuvre, avec une version pour piano, une version pour ensemble de cuivre et voilà ce qu'on appelle band, et puis la version pour orgue qui clôturera notre voyage dans les variations sur America. Thank you. Voilà, nous venons d'entendre les variations sur America de Charles Ives, composées en 1891. Donc Charles Ives avait seulement 17 ans. Compositeur de génial, je trouve. Musique qui est pleine de conformisme parfois et d'humour en permanence. Et elle oscille tout le temps entre un style extrêmement classique, celle d'un quelqu'un qui est encore dans un cursus d'études, et puis des petits interludes, des petits moments un peu plus dissonants, un peu plus atonaux. Et ça, je trouve ça déjà très annonciateur de ce qu'on va entendre dans sa musique plus tard. Donc, intéressant. Et alors, peut-être on peut parler en deux secondes de cet humour, peut-être, et de cette utilisation de ce thème God Save the Queen ou The King en l'occurrence qui est donc a été utilisé. Donc je raconte peut-être quelque chose par rapport à Lully. Donc ce thème dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, on raconte que Lully composa ce chant Grand Dieu sauve le roi, c'était le titre initial, pour célébrer la guérison de la fistule anale du roi Soleil. Donc voilà, maladie charmante, grâce au très habile chirurgien Félix de Tassy. Handel, de passage à Versailles en 1714, il a entendu ce joli cantique et il l'a noté sur son carnet. Rentré à Londres, il l'a fait traduire et adapter les paroles et enfin, sans omettre de s'en attribuer la paternité, s'empresse de montrer le résultat à son souverain Georges Ier, lequel, enthousiaste, l'adopte immédiatement. Donc voilà la naissance de l'hymne anglais, puis de l'hymne américain. Autre compositeur qui... Alors, cette fois-ci, on quitte Charles Ives, qui lui utilise donc des... principe de musique populaire qu'il adapte et qu'il introduit dans sa musique classique ou contemporaine, en l'occurrence à l'époque. Et on passe à Gershwin, George Gershwin, compositeur, donc lui a puisé toute sa musique dans le jazz et dans cette musique dont on ne parlera peut-être pas aujourd'hui à part par Gershwin. Il représente ce qu'on pourrait appeler le jazz symphonique. Donc, c'est-à-dire qu'il a progressivement utilisé ses mélodies de spirituals et de jazz dans sa musique. Il l'a introduite et c'est devenu sa carte de visite et une musique extrêmement novatrice. Je me souviens d'une anecdote. Il avait souhaité prendre des cours avec Ravel. Ravel lui a dit, plutôt que de faire du très mauvais Ravel, il vaut mieux que vous fassiez du très bon Gershwin. Et c'est vraiment ça, comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, Gershwin a introduit cette musique dans le jazz et un des premiers exemples de ce type d'écriture, c'est en 1924 la publication de Rhapsody in Blue, dans lequel il utilise des instruments de jazz, dont les clarinettes, le piano que lui-même jouait extrêmement bien, et tout ça pour une musique extrêmement rythmique, extrêmement nouvelle également. Donc, nous allons écouter une adaptation, une version raccourcie de Rhapsody in Blue de Gershwin, une version pleine d'humour et qui est due à deux musiciens dont on a déjà, je crois, entendu quelque chose dans une précédente émission. Ce sont des gens qui jouent du mélodica. Ils sont absolument, je trouve, extraordinaires. Ils s'appellent Joe Buono et Tristan Clark. Leur groupe s'appelle Melodica Men. Et donc, nous écoutons maintenant leur version de Rhapsody in Blue de notre ami Gershwin, donc pour deux mélodica. Thank you. Il y avait un public enthousiaste apparemment pour cette petite prestation de ce Melodica Man. Donc ces deux magnifiques joueurs de Melodica américains qui ont fait des adaptations. Ils en font d'autres également. Vous pouvez chercher en tapotant sur YouTube notamment et vous trouverez des merveilles de ce duo de musiciens qui adaptent des choses aussi surprenantes que le Sacre du Printemps ou la tétralogie de Wagner. Donc ils vont très 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 loin dans leur délire et dans leurs compétences aussi parce qu'elles sont, je dirais, inépuisables. Alors, après cela, nous allons découvrir peut-être ensemble un compositeur qui est peut-être le plus anglais ou américain des Français ou français des Américains. C'est Edgar Varèse. Edgar Varèse est un compositeur qui est né en France, un bourguignon d'origine, je crois, et qui après a fait des études en Italie, a émigré vers les États-Unis, où il s'est installé, je crois, dans les années 1920. Il a composé là-bas assez vite, en fin de compte, une musique extrêmement nouvelle. Je crois que l'œuvre qu'on peut retenir et qui est la première qu'il ait composée là-bas, c'est « Amérique », justement, composée entre 1918 et 1921, et qui, en fin de compte, rompt totalement avec les études traditionnelles qu'il a faites, parce que, en fin de compte, Edgar Varèse a étudié avec des gens comme Vincent d'Indy ou Albert Roussel ou même l'organiste fameux mais très traditionnel Charles-Marie Vidor. Tout est dans son nom déjà. Et il a donc souhaité rompre réellement avec ces études et ce style d'écriture pour écrire une musique beaucoup plus concrète, une musique. Elle me fait penser un peu celle de Charles Ives, quelquefois aussi, qui fait appel aussi, quelquefois, à des instruments utilisés de manière différente. Et nous allons écouter un moment, la fin de Amérique, donc de cette très belle pièce qui dure une vingtaine de minutes, que nous ne pourrons pas donc écouter intégralement, mais on écoutera la fin. Et vous verrez que c'est une musique qui n'est pas une musique descriptive, qui est une musique de sensation. Je pense que c'est vraiment l'idée qu'un jeune musicien arrive aux États-Unis et entend ces bruits de rue, ces bruits de foule, ces bruits de taxi, ces bruits de sirènes de pompiers, et il les restitue dans sa musique de la manière la plus plausible possible.
Thank you.
Voilà, nous venons d'entendre une chose extraordinaire, la fin d'Amérique d'Edgar Varèse, dans une version de concert donnée par l'ensemble intercontemporain, un ensemble orchestral des étudiants du Conservatoire de Paris, CNSM de Paris, sous la direction de Matthias Pincher. Vraiment une œuvre surprenante qui rappelle parfois, donc je vous parlais de Charles Ives, on peut aussi penser au Sacre du Printemps de Stravinsky, il y a la même folie. Musique novatrice, une musique qui n'est pas souvent jouée parce qu'elle est difficile à jouer, hein. C'est-à-dire que il faut tout d'abord un effectif instrumental extrêmement conséquent. Je crois que la version d'origine demandait 155 musiciens, hein, donc avec un appareil de percussion gigantesque. Et puis ces sirènes de pompiers que vous avez entendues, qui ponctuent l'œuvre, qui la structurent un tout petit peu. Donc c'est vraiment une musique nouvelle et typiquement américaine, je dirais aussi. C'est dans ce sens que cette émission, elle est un peu sur l'idée du renouveau et que il n'y a pas que la variété américaine, il n'y a pas que le spirituals, il y a plein d'autres choses. Et il y a notamment des grands compositeurs qui ont œuvré et qui ont cherché à sortir du conformisme de l'écriture qui était un petit peu celle du 19e. Il y a un autre grand compositeur, alors peut-être moins connu que Varèse, il s'appelle Henry Cowell. Il est né en mars 1897, il a été proche de Charles Ives, voire même peut-être, non pas élève de Charles Ives, mais proche de lui en tout cas. Et il a été, comme Ives, un des premiers à utiliser ce qu'on appelle le cluster. Je crois que j'en ai déjà parlé. C'est un peu que lorsqu'on met une règle ou qu'on met les deux avant-bras sur le piano et qu'on tape comme un fou, eh bien, ça crée donc des accords ou en tout cas des paquets de notes où toutes les notes de la gamme sont quasiment jouées en même temps. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais quand c'est utilisé de manière intelligente, ça devient un objet de construction. Et il a comme ça exploré les différents genres de la composition contemporaine. Il a inventé des instruments, il a expérimenté des micro-intervalles. Voilà, nous allons peut-être écouter maintenant une pièce de Henry Cowell qui s'appelle Dynamic Motion. Et donc dans cette pièce, c'est la première pièce de Cowell dans laquelle il y a l'utilisation de ces clusters. Écoutons donc cette pièce. Thank you. musique étrange, musique de la nouveauté, musique surprenante mais intéressante, celle de Monsieur Cowell, Henry Cowell, Dynamic Motion de 1916, joué par Stephen Schleiermacher. Donc c'était un disciple et un ami de Charles Ives. Nous retrouvons Charles Ives dans une pièce qui s'appelle The 4th of July. Donc c'est vraiment le 4 juillet. Nous retrouvons notre Independence Day. Et nous écoutons donc cette pièce qui est le troisième mouvement de la symphonie Holidays Symphony, New England Holidays. Et bon, pièce en symphonie donc assez conséquente, hein, aussi pour un orchestre de à peu près 120 musiciens. Pièce très complexe. Alors, on a déjà entendu, je crois, dans cette émission, vous avez dit classique, de la musique de Charles Ives, que j'aime beaucoup. Et elle a été créée, cette pièce, en 1932, et jouée, je ne sais pas, il n'y a pas de trace, en tout cas, de la première exécution, je dirais, de l'œuvre. Mais je pense que c'est difficile, c'est une musique difficile, parce que Ives fait appel à des... On a déjà parlé de ça, de ces fanfares qui arrivaient à différents carrefours, en tout cas d'un chef qui était sur le clocher de l'église, et des fanfares qui arrivaient de part et d'autre, et qui, avec chacune leur rythme. Et je pense qu'il utilise le même type de choses. Je vous lis simplement un petit passage de ce que Ives a écrit au sujet de cette œuvre, The 4th of July. « J'ai fait ce que je voulais, tout à fait sûr que la chose ne serait jamais jouée, et ne pourrait peut-être jamais jouer. Bien que les mesures inégales qui semblent si compliquées dans la partition ne correspondent en réalité qu'aux battements ratés, souvent présents dans les parades. » Je pense qu'il évoque le fait que dans les fanfares, il n'y ait pas toujours une parfaite synchronicité des mouvements et qu'il y ait des gens qui aillent plus vite que d'autres et se rendent compte simplement en arrivant qu'ils ne sont pas ensemble. Voilà. Dans les parties décrivant des explosions, deux de ces explosions se produisent au milieu à la fin. J'ai élaboré très soigneusement des combinaisons de tons et de rythmes par sorte de prescription de la même façon qu'un composé chimique qui fait des explosions. Thank you. fin très très surprenante. Après le cataclysme, il y a tout d'un coup ces petites choses qui se réveillent à la fin et ces deux instruments, ces violons qui se juste bruissent. C'est vraiment toute l'originalité de la musique de Ives qui donc disait je fais exactement ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et ça, je trouve ça touchant. Donc voilà, nous écoutions donc le troisième mouvement de la symphonie Holidays de Charles Ives par l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par Michael Tilson Thomas. Nous continuons notre périple dans cette musique américaine novatrice, je dirais, avec un compositeur un peu original, lui aussi, John Cage. John Cage, compositeur à la fois musicien, écrivain, peintre, philosophe, je dirais, influencé par le bouddhisme et par le taoïsme à un moment de sa vie, qui est né, je crois que c'est en 1912, donc à Los Angeles. Il a voyagé en Europe, il est venu prendre des cours de musique au conservatoire à Paris également, comme certains autres. Et il a travaillé avec quelqu'un qu'on a fréquenté tout à l'heure et qu'on a rencontré déjà, c'est Henry Cowell. Il a étudié la composition avec lui, puis avec Arnold Schoenberg, voilà. C'est quelqu'un qui a souhaité lui aussi faire exactement ce qu'il avait envie de faire. Il a inventé des instruments, un water gong, un instrument qui trempait dans l'eau, fait une espèce de glissando, des choses assez originales. Et en 1940, il invente un instrument. Alors, il profite d'un instrument qui existe déjà, qui s'appelle le piano, et il le transforme pour en faire le piano préparé. Alors, préparé, ça veut dire quoi? C'est simplement que sur l'ensemble des touches du piano, les 88 touches du piano de concert, 45 sont préparées avec des objets métalliques ou autres. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 52 ou 53 pièces métalliques qui sont glissées dans le piano, mais ça peut être des boulons, des écrous, des vis, des caoutchoucs, des gommes, et gommes à papier, des objets en plastique. Enfin, sont des choses... Alors on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais curieusement, ce que je l'évoquais sur sa culture et son intérêt pour le bouddhisme ou le taoïsme, se retrouve dans cette utilisation d'instruments qui devient non plus un instrument mélodique, mais un instrument de percussion. Un instrument qui fait penser un peu au gamelan, aux choses gong tibétain. Enfin, vous voyez, tout cet orientalisme importé, mais complètement plausible. C'est-à-dire que la musique vit vraiment, elle existe en tant que telle. Donc, il va écrire au fil des ans de nombreuses pièces. Alors, sonates, évidemment, ce ne sont pas des sonates à la Beethoven. Sont des sonates à la Cage, avec souvent une forme AABA, donc le thème repris deux fois, puis la deuxième partie refaite deux fois. Nous écoutons la deuxième sonate pour piano préparé de John Cage. Étrange, musique orientale, musique décalée. C'est celle de John Cage. Donc, et la deuxième sonate, extraite des sonates et interludes pour piano préparé de 1940, jouée par Boris Berman. C'est un disque Naxos. Voilà. Je pense qu'on a, on a entendu donc un panorama, un panel de compositeurs qui ont donc travaillé, œuvré au début du XXe siècle, parce que là, en fin de compte, toute la musique qu'on a entendue s'est arrêtée dans les années 40. Et j'aimerais terminer l'émission par, évidemment, un compositeur qui a été le premier peut-être à faire le voyage d'Europe vers les États-Unis, avec un besoin aussi, une volonté de faire vivre la musique américaine. C'est en fin de compte Anton Dvorak. Il est venu de sa Bohème natale en septembre 92, 1892. Donc il embarque sur un paquebot avec comme destination New York. Et il sait que les Américains fondent sur lui de grandes espérances. Je crois qu'il a écrit à un ami et lui dit, avait dit à cet ami qu'il voulait montrer le chemin vers la terre promise, l'émergence d'un art nouveau, quelque chose comme ça, un indépendant, bref, un style national qu'il voulait pas imposer mais proposer de manière assez directe aux Américains. Mission de taille pour laquelle Dvorak a déployé beaucoup d'énergie. Pendant son séjour aux États-Unis, il a composé aussi certaines de ses œuvres les plus célèbres. Donc, je pense au Quatuor américain et puis évidemment. L'œuvre que tout le monde connaît, de Dvorak, la Symphonie du Nouveau Monde. Alors, dans cette symphonie, il utilise une thématique assez populaire, c'est-à-dire que très souvent, il réutilise des thèmes qui sont des thèmes de spirituals, de chants traditionnels américains. Alors, c'est déguisé là-dedans, dans un folklore qui, en même temps, est imprégné par la culture bohémienne et donc de l'Europe de l'Est de Dvorak. Et je vais le citer, une petite phrase qui me semble intéressante. Peu importe si l'inspiration vient des mélodies des Noirs ou des chants créoles ou indiens, ou des plaintes des Allemands ou Norvégiens nostalgiques. Les germes de la musique américaine sont ensevelis sous les strates de toutes les communautés qui ont construit ce pays magnifique. Nous terminerons donc cette émission par le final de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Thank you. quittons sur ces dernières mesures de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Anton Dvorak, dirigé donc par Rudolf Barschai à la tête du Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Cette émission était donc consacrée à l'Amérique, en tout cas la vision que certains compositeurs en ont eue au début du XXe siècle, et en hommage à ce jour de l'indépendance des États-Unis que nous célébrons aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Principe Actif, vous avez dit classique. Vous pouvez podcaster l'émission et puis nous nous retrouverons avec plaisir dans 2 semaines pour une nouvelle émission Coup de cœur.